Voilà, donc il y aura deux enseignements, donc ce matin et un enseignement cet après-midi, qui est tiré d'un petit carnet qu'on m'a envoyé. C'est avec Laudato Si, vous savez, des extraits de Laudato Si, ferment rénovateur de la société, c'est ça, voilà, et de la famille. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà. Donc, et je crois qu'il y a beaucoup de citations du Saint-Père à partir de Laudato Si, ce que j'ai vu en tout cas dans le. Alors j'ai choisi de méditer sur des passages. De ce livret-là. Et donc, du coup, ça vous permet de réfléchir donc, le couple comme un lieu de rénovation de la société. Hein, et j'ai marqué les familles pédagogues d'une société apaisée. En quoi il y a quelque chose qui va au-delà même de la vie de couple et qui se diffuse dans notre monde. Dans un des chapitres, j'ai deux chapitres, il y a un chapitre qui s'appelle « Une société fondée sur l'amour », et donc c'est le premier thème, cette société fondée sur l'amour, qu'est-ce que ça veut dire en termes de vie de couple qui ensuite impacte, retentit dans la société. Vous avez ça dans vos livrets, si vous voulez suivre, je vais suivre simplement le texte et le méditer avec vous tout simplement. N'hésitez pas s'il y a l'une ou l'autre question. À les poser. Renouveler la société implique de redécouvrir la capacité de vivre ensemble et en communion. Jésus nous rappelle que Dieu est notre Père commun et que pour cela nous devenons frères et sœurs. Or, quand le cœur est authentiquement ouvert à la communion universelle, rien ni personne n'est exclu de cette fraternité. Quand vous voyez marqué LS, c'est-à-dire Laudato Si. Laudato Si au numéro 90, 92. Il faut ressentir que nous avons tous besoin les uns des autres et que nous avons tous une responsabilité envers les uns et envers les autres. Rien ni personne ne peut nous être indifférent. Déjà, rien que ce premier paragraphe, je trouve très beau. Il est très beau parce que, justement, dans votre vie de couple, alors de façon certainement imparfaite, comme dans ma vie de communauté aussi, hein, mais le fait. Ça dit quelque chose de la capacité de vivre ensemble. La capacité de vivre ensemble et en communion. C'est-à-dire que, y a un désir de communion et cette capacité de vivre ensemble, eh bien, c'est une réponse à l'appel de Jésus. Alors, parfois on se dit, ou parfois on voit plus les points noirs dans la page blanche, dans le sens où on voit plus nos défauts comme communauté religieuse ou comme couple. Mais prenez conscience que dans votre relation, dans la qualité de vos liens, eh bien dans la qualité de vos liens, il y a quelque chose qui va plus loin que vous-même. Vous répondez à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu qui est de former une famille humaine. Hein? Dieu nous voit comme famille. Il ne nous voit pas, contrairement à la société, comme une juxtaposition de personnes. Dieu nous voit comme une famille. Et donc nous vivons en communion les uns avec les autres. Et quand le cœur est authentiquement ouvert, eh bien, rien ni personne n'est exclu de cette fraternité. Et ça, une journée comme ça, c'est reprendre conscience dans, est-ce que dans le oui que vous vous êtes donné le jour de votre mariage, d'autres sont embarqués. Il y a d'autres qui sont embarqués dans ce oui. Dans le sens que, dans ce oui que vous vous êtes donné, il y a évidemment, pour ceux qui en ont des enfants, vos familles, vos amis, voilà, toutes les personnes qui sont autour de vous, vos équipiers sont aussi embarqués dans ce oui, même si ils n'étaient pas présents le jour J. C'est important que vous ayez une vision d'ensemble, c'est-à-dire que rien ni personne, dit le Saint-Père, n'est exclu de cette fraternité. Bien sûr que l'engagement dans le mariage est un engagement éminemment personnel, intime, mais il n'est pas un engagement solitaire. Il n'est pas quelque chose qui me déconnecte des autres. Au contraire, dans le sacrement de mariage, il y a une connexion. Où est-ce qu'on apprend la communion? Où est-ce qu'on apprend à vivre avec les autres, si ce n'est dans la famille? D'où l'importance absolument de la famille et l'importance du couple qui est là pour montrer aux enfants, puis aux autres qui sont autour, ben, que vivre ensemble et être différent, c'est possible. Il y a déjà la différence homme-femme, mais ensuite il y a des différences de caractère, il y a des différences parfois de nationalité, il y a des différences d'origine sociale, il y a des tas de différences hein, dans la réalité du couple. Mais un couple chrétien dit, voilà, de ces différences-là, nous en avons fait des forces. C'est pas toujours simple d'accueillir l'autre comme autre que moi, parce que dans la société, on le voit bien, il y a une sorte de repli, il y a une sorte d'isolement, hein, le chacun pour soi, l'individualisme qui est de plus en plus fort. Hein, on veut se protéger, on ne veut pas prendre de risques, on veut. Voilà, c'est. Et ça vient du fait qu'il y a des peurs. Il y a des peurs, une peur peut-être de. On voit la dépendance comme une menace. Or, c'est vrai que le fait de s'engager dans le mariage, c'est une dépendance d'amour envers l'autre. Et pour nous, c'est loin d'être une menace, c'est un chemin de libération, c'est un chemin de guérison, c'est un chemin qui nous permet d'aller plus loin que nous-mêmes et que nos peurs. Et donc, quand le Saint-Père nous dit, voilà, quand le cœur est authentiquement ouvert à la communion universelle, rien ni personne n'est exclu, voilà, j'allais dire, pour plagier le Saint-Père, quand le cœur est authentiquement ouvert l'un à l'autre, rien ni personne n'est exclu. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une communion d'amour entre vous, d'autres, ça rayonne. Le bien est diffusif de soi. Le bien rayonne au-delà même de ce que nous pouvons voir. Donc je trouve que c'est important de prendre conscience, et on le voit bien, je veux dire, en creux, malheureusement, dans les séparations, toutes les échos que peuvent avoir une séparation, etc., autant de vaguelettes, quand on jette une pierre comme ça dans un océan, on voit bien qu'il y a un écho dans l'eau, etc., qui se forme. Eh bien, pareil dans les séparations, on voit combien le fait de séparation, ça évidemment pour les enfants, pour les familles, pour énormément de monde, parce que dans un couple, il y a plus que deux personnes qui sont embarquées. Il y a beaucoup de monde qui est embarqué dans un couple. Donc, prenez bien conscience que dans votre couple, il y a l'apprentissage de la vie ensemble, il y a la formation des jeunes à la vie ensemble, et c'est là où on apprend. On apprend à accueillir l'autre, on apprend à partager, on apprend à accueillir l'autre qui est autre que moi, on apprend dans les relations frères et sœurs, ben voilà, à se porter, voire à se supporter, parce qu'on n'a pas les mêmes tempéraments, parce que ceci, parce que cela, mais c'est justement dans le couple et la famille qu'il y a cet apprentissage. Vous voyez, c'est vraiment là, c'est là où se donne, là, où la personne humaine est formée à accueillir l'autre tel qu'il est, différent de moi, lui laisser une place. Ce qu'on appelle l'altérité, c'est un mot un peu compliqué, l'altérité, c'est celui qui n'est pas comme moi. Mais comment, où est-ce que je l'accueille? Où est-ce que j'apprends? Eh bien, c'est dans le couple et la famille. C'est là où j'apprends. C'est un lieu d'apprentissage. Pour ça, je marquais pédagogue. Il y a une pédagogie. Vous êtes des pédagogues. De par même votre vie matrimoniale, au-delà même de vos métiers, vous n'êtes pas peut-être pas enseignant, etc. Mais le fait d'être en couple, le fait d'être en famille, de former couple et famille, c'est une pédagogie. Il y a quelque chose qui vous dit à la société, au monde, que ensemble c'est possible de vivre, que l'engagement long terme est possible. Alors nous le vivons dans une dimension de foi, évidemment. Pour nous, la présence de Dieu, le pardon du Seigneur, les sacrements, la parole du Seigneur, tout ça vient nous soutenir. Et qu'il n'y aurait pas ça, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Hein? Mais on voit bien qu'on trouve un vrai soutien, un renouvellement dans cette parole du Seigneur pour pouvoir vivre ensemble. Hein? Alors, c'est bien que vous en preniez conscience, parce que parfois, encore une fois, on voit plus les défauts de sa propre vie de couple que les qualités, qu'en fait. Et ça fait partie de la fécondité. Quel est le premier enfant d'un couple sinon son amour? Cet enfant-là, il ne partira jamais. Cet enfant-là, quelle que soit votre situation, parce que parfois la nature est cruelle, ou on s'est marié sur le tard, on n'a pas pu avoir d'enfant, etc. Bon, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fécondité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fécondité. Et ce n'est pas parce que vous avez des enfants que votre fécondité s'arrête là. Le fait de porter du fruit, et du fruit en abondance, vient de votre qualité de lien. La qualité du lien que vous avez l'un avec l'autre fera précisément que vous portez du fruit. Fera que votre couple est fécond, fera que votre vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et c'est de ça dont il faut prendre soin, et en participant à une journée comme ça de secteur, en participant aux équipes, vous prenez soin de votre lien. Vous prenez soin de votre lien. Parce que vous savez que le lien peut être menacé. On le sait que trop. Hein. Autour de nous, le lien, tout va dans notre société, pire maintenant qu'avant, j'en sais rien, mais dans l'individualisme, oh ben non, mais maintenant je t'aime plus, etc. C'est ce que le Saint-Père appelle des relations jetables. On est dans le jetable. Voilà, on est dans le jetable. Ben, nous disons non. On est dans le durable. On est pour un couple durable. On est pour un couple durable. Vous voyez, c'est étonnant de voir que dans les discours sur politique, sur l'écologie, etc., jamais on parle du couple et de la famille. Alors qu'on sait très bien, les séparations, ça veut dire deux appartements, deux voies, souvent deux voitures, des trajets, etc., etc. L'impact strictement écologique, technique, est considérable. Mais on n'en entend jamais parler. On n'en entend jamais parler. Sans parler de l'impact affectif, ça là pour le coup, et la précarité, les familles monoparentales, etc. Bon, tout ça. Mais il n'y a pas de politique publique mise en place pour une prévention des divorces. Alors qu'il y a un vrai enjeu de politique publique. Donc, vous voyez, je crois que c'est quelque chose. Donc, nous sommes pour le couple durable, précisément. Et le respect de la nature vient aussi du respect qu'on se porte l'un à l'autre. On a une attention. À la quantité de bien, nous préférons la qualité du lien. À la quantité de bien, nous préférons la qualité du lien. Moins de bien, plus de lien. Vous voyez, ça me paraît vraiment très important. Et en participant à une retraite comme une journée comme celle-ci, vous dites ça. Vous dites, c'est le lien qui est important, et donc on prend soin du lien. Voilà, donc ça, c'est intéressant de prendre conscience de ça. C'est juste des choses que vous savez, que nous savons tous, etc., évidemment. On le sait, mais il faut juste en reprendre conscience. Vous savez, une journée comme ça, c'est pas tant pour apprendre que pour se reprendre. Pour reprendre, se remettre face à la finalité de nos vies. Face au pourquoi on est ensemble. Face au pourquoi du mariage. Pourquoi on est les seuls dans l'Église catholique, les seuls, même parmi les chrétiens, à croire à un mariage indissoluble. Les orthodoxes, les protestants, non. Les orthodoxes, non, ils croient au sacrement. Les protestants, il n'y a pas de sacrement de mariage. Les orthodoxiens, sacrement de mariage, mais il y a un plan B. Mais nous, non. C'est-à-dire, et je pense que c'est intéressant de dire que on a en fidélité de l'interprétation que nous avons de la parole du Seigneur. Voilà, au commencement, il les fit hommes et femmes, ce que Dieu unit, que l'homme ne le sépare pas. Bien, c'est en fidélité à cette parole-là que l'Église catholique continue à proposer le mariage indissoluble. Parce qu'il y a un vrai bien humain. Humain. Sans compter le bien spirituel, évidemment. Je continue donc, vous l'avez sur dans vos livres. L'amour fait de petits gestes d'attention mutuelle est aussi civil et politique. Il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. Dans ce cadre, joint à l'importance des petits gestes quotidiens, l'amour social nous pousse à penser aux grandes stratégies, à même d'arrêter efficacement la dégradation de l'environnement et d'encourager une culture de protection qui imprègne la société. Celui qui reconnaît l'appel de Dieu à agir de concert avec les autres dans des dynamiques sociales doit se rappeler que cela fait partie de sa spiritualité et que c'est un exercice de la charité et que de cette façon, il mûrit et il se sanctifie. Là aussi, c'est de l'encyclique Laudato Si. C'est intéressant ce que dit le Saint-Père. Il fait ce que j'aime bien, j'aime beaucoup cette encyclique Laudato Si, parce qu'il dit une chose. Il dit tout est lié. La dégradation du couple n'est pas sans rapport avec la dégradation de la planète. C'est pas sans rapport. Tout est lié. Et il dira plus loin dans l'encyclique. Le cri des pauvres, c'est le cri de la terre. Le cri de la terre, c'est le cri des pauvres. Et j'allais dire, le prendre soin, le manque de soin qu'on a les uns des autres, le manque de patience, parce que ça demande de la patience de prendre soin, et particulièrement de personnes plus fragiles, et particulièrement d'enfants. Voilà, l'enfant, ça demande beaucoup de patience. Mais le fait aussi qu'on se met plus facilement à l'écoute de la création. Oui, ce que j'aime bien dans cette encyclique, c'est qu'il unifie les choses, le Saint-Père. Tout est lié. Il voit les choses dans une unité. Il dit, c'est pas par hasard que cette course à la consommation se retourne contre la création, parce qu'on puisse être heureux, mais se retourne contre le couple. Oui, parce que on veut travailler plus, on veut gagner plus, on veut avoir plus de biens, on veut plus. Et où est-ce qu'on prend le temps pour le lien, pour la communion? Où est-ce qu'on le prend? Où est-ce qu'il y a des lieux proposés dans notre société pour revisiter la qualité de communion entre nous? Il n'y en a pas. Il y a l'Église qui propose. Et le Saint-Père, il fait le lien entre les deux. Alors on dit, tiens, des petits gestes d'attention mutuelle, oui, ils sont, et aussi civils et politiques, c'est et comme les petits gestes d'attention mutuelle dans le couple, c'est fait de mille attentions, mais dans la société, les petits gestes d'attention mutuelle, les petites... par exemple... avec ce matin, là. En plus, c'était un de vous là, qui me prenait. En fait, je n'ai pas bien vu où est-ce que ça allait tourner pour Bellesan, etc. J'allais m'embringuer sur un banc. Et je me suis arrêté. C'était 9h, moins le quart. J'ai fait marche arrière, ça. Et il y a une voiture qui est arrivée. Il se trouvait qu'on allait au même endroit. Mais voilà, elle m'a laissé passer. J'ai reculé, ce qui est chose formellement interdite. Vous ne me dénoncerez pas aux gendarmes. Mais et j'ai pris l'embranchement. J'avais passé de 4-5 mètres. Du coup, je l'ai repris l'embranchement qu'il fallait. Oui, cette attention, cette patience. Mais cette patience l'un envers l'autre, en voiture, par exemple. C'est intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez de la patience? Quelqu'un qui a fait une mauvaise manœuvre, quelqu'un qui est étranger, un étranger, ou qui simplement qui n'est pas dans le coup du coin, ne connaît pas par cœur toutes les routes, etc. Est-ce qu'on a une patience? Est-ce qu'on tend la main? Oui, ça s'apprend dans le couple et la famille. Ça, on apprend la patience. Et évidemment, le contact avec la nature, et je pense à un certain nombre d'entre vous, vous êtes agriculteurs ou vous avez été en lien avec le monde agricole, vous savez combien il faut de patience. Il faut aussi être attentif, il faut laisser, on ne fait pas pousser les plantes en tirant dessus. Oui, je trouve que ça questionne aussi notre rapport au temps. Ça questionne notre rapport au temps, ça. Le fait de la communion, ça demande du temps. De même aussi que le respect de la création veut dire qu'on accepte un certain temps de mûrissement, que l'on n'a pas forcément le toujours plus, l'immédiateté. Et est très clairement un obstacle à la communion. Et est très clairement un obstacle à la protection de la création. Le tout de suite. Donc, c'est intéressant de voir comment le Saint-Père, dans cette société fondée sur l'amour, fait le lien aussi avec la création, la dégradation de l'environnement, hein, c'est la dégradation aussi de nos liens, de nos relations. C'est que la face visible. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, Le portrait de Dorian Gray. Ça vous dit quelque chose, ce portrait de Dorian Gray? Et en fait, il voyait, il y avait un portrait, et ce portrait se dégradait à mesure que lui-même aussi se dégradait. Il trouvait comme un miroir sa dégradation morale et la dégradation de la peinture qui était faite de lui. Donc c'est intéressant de voir ça, et je trouve ça, que de cette pensée du Saint-Père, de dire, ben, il y a une sorte d'unité, il y a une unification, il y a un lien entre la qualité de la vie matrimoniale et le respect de la création. Lien qui n'est pas forcément intuitif, qui n'est pas spontané, mais il y a un lien, parce qu'on apprend justement à prendre soin. Parce qu'on s'est laissé aussi apprivoiser par le Seigneur, parce qu'on a laissé le Seigneur prendre soin de nous. Le texte continue. Une société fondée sur l'amour implique d'aller au plus profond de notre propre personne et de notre propre existence. Elle nous rappelle que nous avons été créés dans le cœur de Dieu, et donc chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est aimé, chacun est nécessaire. Voilà. Nous prenons conscience que chaque vie vaut la peine d'être vécue. Nous prenons conscience que chaque vie est importante. Et que singulièrement, les vies les plus fragiles, comme les vies des enfants, comme les vies des personnes malades, les vies de personnes âgées, nos anciens, nos aînés, etc., chaque vie est importante. Et donc, le Saint-Père nous dit, nous avons été créés dans le cœur de Dieu. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Voilà, d'avoir un regard de foi sur son conjoint et sur ses enfants, c'est important, parce que on peut le perdre, ce regard de foi. On peut perdre ce regard de foi et en rester qu'à un niveau, j'allais dire, psychologique, d'agacement, voilà, les agacements, les ceci, les cela. On peut perdre, puis les manques de patience, et puis les blessures qui se sont parfois accumulées au fil des années, de même sur ses propres enfants, bien on peut parfois perdre le regard de foi sur l'autre. Que l'autre est aussi une personne qui est le fruit de la pensée de Dieu, le fruit de l'amour de Dieu. Tu es le fruit de l'amour de Dieu. Quand vous rentrerez chez vous, ou lors de la retraite, ce serait bien que vous puissiez vous dire ça, l'un à l'autre. Tu es le fruit de l'amour de Dieu. De voir l'autre comme une grâce pour votre vie. De voir l'autre comme une grâce. Et n'attendons pas de... Voilà, la séparation par le décès, etc. N'attendons pas ça pour reprendre conscience et nous dire les choses. Ben oui. Profitons de ce jour pour redire, voilà, tu es la grâce que Dieu m'a donnée pour ma vie. Trois idées fondamentales découlent de cette réflexion. La première, c'est que nous avons tous notre origine dans l'amour de Dieu. Et pour cette raison-là, la dignité de chaque personne est infinie. La deuxième idée, c'est que chacun de nous est le fruit d'un acte créateur unique de Dieu, ce qui nous rend unique dans l'univers. chacun avec ses talents différents et tous nécessaires. La troisième idée, c'est que, ayant été créé par amour, notre vocation fondamentale, c'est de refléter l'amour de Dieu dans nos relations comme dans notre vie. Le texte, voilà, c'est rappelle ça, c'est, je trouve ça très bien, ça, c'est. Il y a trois implications, trois conséquences, le fait d'être aimé de Dieu, d'être le fruit de la pensée de Dieu, etc. Nous sommes, l'amour de Dieu est notre origine, la dignité de chaque personne humaine, chacun le fruit d'un acte créateur, chacun est unique, avec des talents différents, nécessaires, et puis notre vocation, c'est de refléter l'amour de Dieu. Je trouve que c'est intéressant de voir chaque couple, en fait, chaque couple. C'est intéressant dans ce sacrement de mariage, si je prépare beaucoup au mariage, mais je célèbre peu de mariages, parce que souvent c'est des gens qui sont dans d'autres régions, etc., bon, voire à l'étranger, bon, mais du coup, quand je célèbre, je me dis, tiens, chaque couple est comme une icône de cette alliance. C'est pour ça que nous croyons que le mariage, nous croyons au mariage indissoluble, parce que c'est l'expression de l'alliance que Dieu a faite avec nous. Et cette alliance, elle est de toujours à toujours. Elle est de toujours à toujours. Vous voyez, donc je pense que c'est intéressant de reprendre conscience que chacun, chaque couple, dit de façon modeste, oui, avec plein d'imperfections, certainement, mais dit quelque chose de l'amour, de l'alliance que Dieu a scellée avec l'humanité. Ça dit quelque chose, chacun dit quelque chose de cette alliance-là. Ce n'est pas juste le face-à-face de psychologie plus ou moins équilibrée, etc. C'est dans notre foi, nous croyons que dans l'engagement que vous avez pris, vous dites quelque chose de l'alliance que Dieu a scellée avec l'humanité entière. Et que chaque couple dit quelque chose, exprime quelque chose, peut-être parfois, et bien souvent, sans même s'en rendre compte. C'est pour ça, entre autres, justement, qu'il n'y a pas de divorce, parce que c'est l'alliance avec Dieu, et de toujours à toujours. Et donc, posez-vous la question. Notre vocation est de refléter l'amour de Dieu dans nos relations comme dans notre vie. Posez-vous là, je pose souvent la question dans les préparations au mariage, quel est le charisme de votre couple? Quel est le charisme de votre couple? Quelle est la manière d'exprimer cette alliance? Vous voyez, quelle est cette manière-là particulière? Peut-être vous-même, vous ne vous en rendez pas compte, mais peut-être vos proches, vos amis, vos voisins, c'est la simplicité. C'est l'accueil. C'est l'attention, le soin. Il y a mille manières d'exprimer l'alliance. Il y a autant de manières que de couples. Autant de chemin vers Dieu que de couple. Un journaliste posait la question au pape Benoît XVI, combien y a-t-il de chemins pour aller vers Dieu? Sachant qu'on lui avait fait une assez mauvaise réputation au début de son élection, de son pontificat, d'un homme dur, d'un homme trop conservateur, etc., etc. Et le journaliste pensant qu'il n'y a que l'Église, le chemin de l'Église catholique pour aller vers Dieu, pensant éventuellement à cette réponse-là, et lui de répondre, enfin théologien universitaire qu'il est et qu'il était, oh, il est de chemin pour aller vers Dieu autant que de personne. Il est de chemin pour aller vers Dieu autant que de personne. Il est de chemin pour exprimer l'alliance autant que de couple. Donc, reprenez confiance aussi dans ce que vous vivez. Reprenez conscience que cet amour-là que vous vivez, il va au-delà de vous-même. Vous portez en vous-même plus que vous-même. C'est même la définition du chrétien. Le chrétien, c'est celui qui porte en lui-même plus que lui-même. Il y a quelque chose de vertigineux. Hein. Nous croyons que par le baptême, nous sommes habités par la Trinité, par la présence de Dieu. Dieu s'est fait visible à nos yeux. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Hein, c'est les pères de l'Église qui le disent, etc. Donc, il y a quelque... le chrétien n'est pas simplement un... Il n'est pas forcément meilleur ni moins bon qu'un autre, etc. Mais il a cette conscience que par le baptême, il porte en lui-même plus que lui-même. Nous sommes la religion du vertige. Nous sommes la religion du vertige. Il y a quelque chose de vertigineux dans les sacrements. À la fois une très grande pauvreté, à la fois une très grande pauvreté, un peu de pain, un peu de vin, un peu d'eau sur le front d'un enfant, quelques paroles entre un homme et une femme, et à la fois le ciel qui s'ouvre. Il y a une disproportion dans la vie chrétienne. Tout est disproportionné. À la fois la pauvreté de nos humanités, nos défauts, etc. On est empêtré, nos creux, nos bosses, que l'on confesse régulièrement et on voit que ça bouge relativement peu. Et à la fois, waouh, dans le oui que vous vous êtes donné, l'alliance qui se manifeste. Ben waouh, nous sommes la religion du waouh. Donc c'est intéressant de juste de se remettre face à ça. Et on va célébrer la messe tout à l'heure, ben, on va se remettre aussi face à ce que, au Seigneur lui-même, à ce, plus que j'avance comme prêtre, plus je trouve les sacrements pauvres d'une certaine manière, ce qui fait la réalité du sacrement, c'est très pauvre, et plus cette pauvreté ouvre à une transcendance, à quelque chose qui va au-delà, à un infini. Eh bien, il en va de même pour vos couples. Oui, bon, ils sont certainement pas parfaits, bon, ça c'est probable. Maintenant, c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas des signes. Vous savez que sacrement, c'est signe, c'est pareil. On n'a pas besoin d'être parfait pour être signe. Cette origine commune, poursuit le texte, enracinée dans l'amour, demande une attitude d'ouverture attentive aux autres, au monde et à Dieu. Elle est contraire à tout idéal égoïste, centré, fermé sur soi-même, excluant tous les autres. Globalement, nous trouvons dans la société actuelle beaucoup de styles de vie individualistes caractérisés par la globalisation de l'indifférence par rapport au monde et aux autres. Presque, nous dit Evangelium Gaudium, et c'est aussi le Saint-Père qui nous fait une citation, presque sans nous en apercevoir, nous devenons incapables d'éprouver de la compassion devant le cri de douleur des autres. Nous ne pleurons plus devant les drames des autres. Leur prêter attention ne nous intéresse pas, comme si tout nous était une responsabilité étrangère qui n'est pas de notre ressort. La culture du bien-être nous anesthésie. Intéressant ça, hein ? La culture du bien-être nous anesthésie. Hein ? La culture, voilà. Et c'est pour ça que le Saint-Père insiste beaucoup sur une certaine sobriété de vie. Ne pas multiplier, voilà, ne pas se mettre dans des emprunts pour juste avoir des standards de vie supérieurs. Bon, c'est une sobriété de vie. Hein. Cette sobriété de vie, eh bien, permet d'être plus proche. Une société renouvelée qui est comme base l'amour implique une conversion personnelle qui puisse vaincre l'indifférence, la négligence et si souvent l'incohérence entre ce que l'on affirme et ce que l'on vit. Une conversion intérieure intégrale faite d'une conversion écologique qui nous mène à vivre notre vocation de gardien de l'œuvre de Dieu et d'une conversion sociale conduisant au développement d'une sensibilité et d'une solidarité vraiment humaine par rapport aux autres qui sont notre prochain. Ce que nous dit le Saint-Père, c'est que, oui, on veut être en communion les uns avec les autres, etc., et dans le couple, on veut être en communion et avec la création, mais on sent bien que dans notre cœur, il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose qui est cassé, et c'est ce qu'on appelle le péché originel, et les conséquences en nous du péché originel. Et donc, il y a une conversion, il y a un changement de cœur, qui n'est pas simplement... parfois, je suis un peu bon, parce que les politiques ne peuvent pas faire beaucoup d'autres choses, mais on parle de la transition écologique, la conversion écologique, etc. Mais ce n'est pas juste prendre moins de bains et plus de douches. Je veux dire, c'est ce dont parle Saint-Père, c'est un cœur nouveau, un esprit nouveau, l'attention l'un à l'autre, face à cet individualisme qui nous tend des pièges et qui est en nous. Évidemment, il est en nous. Il est en vous, il est en moi, il est en chacun. Mais prenons conscience, et une journée comme celle-ci est faite pour ça, de prendre conscience aussi de cet individualisme qui nous habite et nous tend des pièges. Et nous éloigne les uns des autres. Et nous éloigne de notre conjoint. L'indifférence. Il implique aussi une conversion communautaire dans le sens du développement d'une véritable culture du prendre soin. Cette conversion implique aussi que la conscience amoureuse ne peut pas être déconnectée des autres, des autres créatures. De former avec tous les êtres de l'univers une belle communion universelle. Pour le croyant, le monde ne se contente pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis tous, nous a unis à tous les êtres. Intéressant, il y a, peut-être terminé par ça, mais il y a une phrase d'un saint Paul, je ne sais pas si vous... Bon, je suis pas un grand champion des citations, etc. Mais il y a une phrase d'un saint Paul qui dit « La création est en gémissement et attend son salut ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette phrase-là. « La création est en gémissement, attend son salut ». Et je trouve que il y a un lien. Ça veut dire que de notre conversion, il y a quelque chose du soin qui est pris de la réalité qui nous entoure. Du soin qu'on prend les uns des autres dépend aussi le soin de la création et de la communion qu'on a avec. Et tout ça, on le voit dans la vie des saints. Vous voyez, dans la vie des saints, Saint François d'Assise avec le miracle des loups, vous voyez, il y a des saints qui ont une qualité de lien avec la création qu'on a perdu parce que on est dans l'exode rural, une société industrielle, etc. Bon, mais on n'a plus de contact avec le créé, avec ce qui va lentement, avec la création, et on prend, voilà. Donc je trouve que c'est intéressant d'être attentif à ça. Est-ce que de dit le Saint-Père, c'est on reconnaît le lien qui nous unit les uns avec les autres. Donc c'est aussi dans la famille qu'on l'apprend, cette sensibilisation à la nature, cette sensibilisation, ce soin, et ça demande une sortie de soi-même, forcément. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Ça demande de sortir de ce que... parce que spontanément, on est préoccupé de nous-mêmes. C'est très spontané. Spontanément, on veut notre confort. Spontanément, on veut... Voilà. Est-ce que j'accepte de prendre... voilà. Et puis... peut-être terminer encore 5 minutes, là... il est bon, à cet égard, de rappeler que parce que nous sommes des personnes uniques, la société est elle-même plurielle. Cette diversité doit être comprise comme une énorme richesse. Et oui, elle est plurielle, oui, le fameux vivre ensemble, etc. Mais ça n'a rien d'intuitif de vivre avec des personnes qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes convictions que nous, qui n'ont pas le même logiciel que nous, qui n'ont pas la même manière d'organiser des choses que nous, qui n'ont pas la même religion que nous. Et le Saint-Père nous dit, qu'il s'agisse d'une question d'âge, de sexe, de religion, d'éducation, d'origine culturelle, d'aptitude, etc., cette différence apporte à la société des points de vue, des compétences, des structures de priorité, des croyances. Voilà. Et une nouvelle société est une société plus préparée à faire face au contexte et aux défis que nécessitent les solutions novatrices. Voilà. Tu dis, on voit bien qu'on est dans une phase de changement. On voit bien qu'on est dans des transitions. Ne serait-ce qu'au niveau de la vie chrétienne, on voit bien que la vie chrétienne s'estompe dans nos sociétés occidentales. On voit bien que le brassage aussi qu'il y a de part et d'autre, etc. Tout ça peut-être nous... Et on voit bien aussi des raidissements, parce que ça nous questionne, ça nous fait peur, des gens qui ne pensent pas comme nous. Mais justement, comme couple, vous êtes des pédagogues d'une société apaisée. Parce que précisément, vous dites, bah, nous, peut-être, on était de cultures différentes. Peut-être, en vie spirituelle, nous n'étions pas au même niveau, entre guillemets. Eh bien, on a fait chemin ensemble, on a fait route ensemble. Voilà, et nous voilà, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, notre oui, et on est toujours ensemble. Et ça, c'est un signe d'espérance extraordinaire. Extraordinaire. Vous n'en prenez pas conscience, hein, mais moi, je vous le dis. C'est un signe d'espérance extraordinaire. Que justement, différents, hommes-femmes, et que vous soyez nés dans la même ville, la même rue, de la même ville, etc., chaque famille est un monde. Et vos familles respectives d'origine sont elles-mêmes différentes, même si vous êtes, pourquoi, de deux familles d'agriculteurs, par exemple. Bon, mais chaque exploitation est un monde aussi. Voilà, c'est la manière de gérer, la manière... Mais, et justement, vous dites, tiens, on a fait route ensemble. Alors, juste vous laisser là-dessus. De reprendre conscience dans le temps d'oraison là qu'on va prendre, un petit chant peut-être, et pour nous introduire à l'oraison et nous remettre face au Seigneur.